Les sacs à dos, l'émission qu'il vous faut pour parler archéo. Bienvenue sur Transistor dans l'émission concoctée par Archéolab et les étudiants du master médiation du patrimoine, de l'histoire et des territoires de l'Université de Rennes 2. Cette année encore, nous allons vous emmener à la découverte des patrimoines archéologiques et nous irons rencontrer ensemble tous ceux qui contribuent à les faire connaître.
Au-delà des représentations cinématographiques des films de cap et d'épée, des péplums sanglants de Hollywood et des imaginaires médiévalistes chevaleresques et fantaisistes de la littérature, comment représenter et faire revivre des pratiques du passé sans tomber dans des idées reçues? Nous sommes Jeanne, Lola, Olinka et Anouk, et nous vous proposons aujourd'hui un épisode de Truelle et Sac à dos consacré à la reconstitution historique. Pour ce faire, nous avons rencontré Fabrice Hénaud, un ancien archéologue passionné d'histoire et d'arts martiaux qui a choisi de se consacrer bénévolement à la recherche expérimentale sur des pratiques quotidiennes médiévales et certains arts du combat européen historique. Aujourd'hui, Fabrice a plusieurs casquettes dans le monde de la reconstitution. Il est président de la Confrérie de la Corneille, une association sportive rennaise de reconstitution des arts martiaux historiques européens, dit AMHE. Et il s'investit également dans l'association des Milites Paganses, pour un projet d'archéologie expérimentale à Pontcroix autour des modes de vie rurales et de l'habitat au tournant du XIe et du XIIe siècle, un projet pour lequel il est en charge de la recherche documentaire. Nous avons également eu la chance d'assister à une séance d'entraînement de la confrérie de la Corneille pour observer en direct la recherche d'équilibre entre sport et véracité historique. Rendez-vous maintenant à la croisée des époques, là où les gestes de construction et de combat deviennent des passerelles vers le passé.
Donc, est-ce que vous pourrez peut-être commencer par vous présenter et un peu nous expliquer comment vous êtes venu à rentrer dans le milieu historique et l'archéologie
Oh là là. C'est une sacrée question. je suis pas plus professionnel, hein, que ça. C'est maintenant j'exerce un autre métier. J'ai commencé l'archéologie il y a très 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 longtemps et j'ai été professionnel pendant à peu près 4-5 ans, à l'époque où ça s'appelait l'AFAN. L'association, c'était l'ancêtre de l'INRAP, en fait. Donc on parle de moments qui sont la fin des années 80 et début des années 90. Donc toujours une passion pour l'histoire en général. Et puis après un moment de en laps post-professionnel sans rien, j'y suis revenu, mais sur un versant un peu plus loisir pour moi. Donc les recherches, en fait, depuis 30 ans... Je passe mon temps à faire des recherches historiques sur des sujets divers et variés, mais qui m'intéressent, qui me motivent particulièrement.
D'accord. Donc là, vous êtes dans les associations point de vue bénévole.
Ouais, c'est du bénévole avec... quand on intervient sur différents sites, c'est au titre de l'association, en fait.
Justement, vous parlez d'associations. Donc, vous faites partie de la confrérie de la Corneille.
Voilà.
Et en même temps, vous êtes présent sur l'archéosite de Pontcroix.
De Pontcroix.
Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous présenter ces deux associations et qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles font ?
Moi, je suis sur deux associations qui sont pas tout à fait sur le même sujet. Alors, celui de la confrérie de la Corneille, c'est une histoire vraiment à part sur les AMHE, mais qui est pas vraiment une association en reconstitution, hein. Même pas du tout. Sauf si on parle de reconstitution du geste, mais on est sur quelque chose de pratique autour du geste martial. Pontcroix, j'y interviens avec une autre association, c'est les Milites Paganses, dont là je suis simple membre, qui est une association de reconstitution de la période plutôt tout début 12e, centrée sur deux aspects, l'aspect combat, pour le coup, Milites, et ce que ça implique, et l'aspect paysan, artisanal. On est aussi bien dans l'expérimentation, là aussi, du geste, des vêtements, mais sur une contrainte un peu plus large, qui est celle de la reconstitution, entre guillemets. Et ça nous permet d'avoir un champ d'expérimentation pour certaines hypothèses d'utilisation d'outils, de construction, ce genre de choses. Et donc là, on s'est lancé dans l'aventure avec l'association de Pontcroix. Donc Pontcroix, c'est un archéosite médiéval, il n'y en a pas beaucoup. C'est très centré sur la période 14e siècle. Et donc, on a un accord avec eux et on construit une maison, mais plutôt basée sur des plans du 12e.
Donc, par rapport à ces associations dont vous faites partie, on peut donc les associer à de l'archéologie expérimentale. Qu'est-ce que c'est pour vous, donc, cette archéologie expérimentale, ou en tout cas, qu'est-ce que c'est ce que vous pouvez faire au sein de ces associations?
Ouais, alors l'archéologie expérimentale, on a cette grande, comment dire, liberté du bénévolat et du non-académique de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, okay. Entre guillemets. On n'est pas forcément tenu à la même rigueur, ou du moins sur le papier. Par contre, moralement, c'est un peu différent. Nous, on y tient à être le plus rigoureux possible et pouvoir un peu reprendre les fondamentaux et de ce que c'est de l'expérimentation mentale. On n'est pas juste dans de la recréation ou de l'évocation. Moi, la façon dont je le vis, justement, au niveau des Milites Pagenses, c'est comme un cadre d'expérimentation assez large. De façon indirecte, un peu, et un peu amusante, on expérimente aussi les interactions sociales, dans certaines remises en situation. Dans le cadre du jeu ou de mise en rôle, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes de voir comment ça ne correspond pas du tout à nos mentalités. C'est assez anecdotique, mais c'est quand même très très intéressant. Et l'expérience de la maison, par exemple, de la construction de la maison, nous donne vraiment des données. Alors, on est relativement rigoureux en essayant de noter un peu tout ce qu'on peut de ce que ça implique d'une façon plus large. Au niveau économique, par exemple. C'est-à-dire qu'une maison, ça représente une petite forêt. Il faut vraiment se mettre la main à la pâte pour se rendre compte du nombre de matériaux, du nombre d'heures de travail que ça représente. On peut assez facilement répondre à la question de est-ce que ça implique tout le village ou pas. Est-ce qu'il faut être un spécialiste ou pas pour une maison comme la nôtre. Une personne qui s'y connaît, c'est suffisant. Pour fermer les autres, etc. etc. On n'a pas besoin d'être tout le village. On pourrait construire la maison avec un certain nombre de temps, à 3, 4, 5 personnes, c'est suffisant. C'est juste un peu plus long. Et encore, pas forcément, parce que ça implique aussi la coordination de chantier. Plus il y a de monde, plus c'est chiant. Et tout ça, c'est des choses que on n'est pas obligé de noter, mais quelques-uns chez nous, en fait, le font, et prennent toutes ces notes-là, parce que ça nous amène des données sur essayer de comprendre concrètement comment ça marche. C'est un matériau extrêmement intéressant, cette remise en situation, pour valider ou invalider des hypothèses d'historiens, par exemple. Il y avait un professeur, je crois qu'il était de Munich, qui a fait la traversée des Alpes en équipement de légionnaire et avec le truc, et se rendre compte de ce que ça implique vraiment et qu'il y a des années-lumière de ce que se pense un historien. Les AMHE, si on vient là-dessus un peu, c'est un peu la même chose. Là, nous, on travaille sur la recréation du combat. Qu'est-ce que c'est que le combat technique? Qu'est-ce que c'est que le combat médiéval? Alors, les AMHE, c'est très très large. Ça part de l'Antiquité jusqu'à 1914. Mais le but de cette matière, c'est l'expérimentation, la compréhension, recréation du geste historique martial à partir de sources. On essaye de... Et là, c'est là-dessus que ça rejoint l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire que on essaye de rien inventer, et quand on invente ou quand on nous manque de l'ADN de grenouille, qu'on rajoute, on le prend en compte aussi. C'est-à-dire que ça implique de tout recontextualiser pour retrouver ce geste-là. C'est que c'est aussi un sport. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait l'expérimentation du geste, comment on l'adapte à un contexte moderne. D'accord. Donc c'est un truc qu'on refait revivre. Donc c'est là que c'est un petit peu différent.
D'accord.
Bah, c'est sur des positions de prise d'armes. Ouais. En fait, il y a des positions de lutte à prendre selon le manuscrit en fonction des circonstances.
Okay.
Et en fait, c'est pas toujours évident de les garder en tête. Donc je vais vérifier qui doit faire quoi.
Ok, ça marche.
Parce que c'est une prise par devant, une prise par derrière.
Justement, à propos des AMHE, sur quelle période vous basez en fait vos travaux ou dans la confrérie de la Corneille, quelles périodes sont représentées? Et surtout, suivant les périodes, sur quelles sources on s'appuie?
Ouais. En fait, c'est ça, il y a différents types de sources pour les arts martiaux. Il y a les sources techniques, proprement dites, donc qui sont des descriptifs d'utilisation concrète des armes et un peu de leur contexte. Ça apparaît à partir du 15e. À partir du 15e, on commence à avoir des vraies sources de livres de combat. Il y en a un qui est un peu plus ancien, qui est du tout début du 14e, mais c'est un peu un ovni, et ça commence un peu à émerger à partir du 15e siècle. Donc ça, c'est des AMHE qu'on appelle, de façon un peu abusive, je trouve, direct, mais vraiment sur le geste technique. Et on a toutes les sources indirectes, qui elles sont très très nombreuses et qui demandent beaucoup de travail, que sont, grossièrement, on a les descriptifs de type icono, tous les dessins, les représentations qu'on peut avoir des combattants, mais aussi ce qu'en disent leurs contemporains, que ça soit en termes un peu péjoratifs, ce qu'il y a avec certains auteurs latins notamment, ou de type un peu de conte. Moi, on a des gens qui ont travaillé beaucoup, d'ailleurs une thèse qui a été faite sur le combat chevaleresque à partir des chansons de gestes. Donc à partir des chansons de gestes, bon, est-ce qu'on retrouve des récurrences qui permettent de déterminer s'il y a un geste martial codifié, entre guillemets. Donc il y a plein de choses intéressantes de ce côté-là. Et dans ce qu'on peut appeler les actes de la pratique, c'est-à-dire que les actes judiciaires, les lois qui peuvent sortir exactement, concrètement, qu'est-ce que nous disent ces matériaux. Et on doit recouper tout ça. D'accord. Pour avoir une démarche complète, il faut recouper un peu ces trois axes-là. Nous, on travaille, on est des gourmands, hein, mais voilà. On travaille sur l'Antiquité, beaucoup, donc sur la gladiature, qui est extrêmement étonnante et extrêmement riche de documents. Il n'y a pas de documents techniques, mais il y a tellement d'exemples iconographiques. Enfin, la gladiature, c'est un truc fabuleux, en fait. Hein. Ça prend une place incroyable dans la période romaine. Donc on a beaucoup, 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 beaucoup de matériaux, mais qui demandent beaucoup de travail pour essayer de retrouver un geste. On a pas mal de périodes féodales en lien avec les militaires de tout à l'heure, puisqu'il y a des ponts hein, entre les associations. On travaille beaucoup sur le combat chevaleresque et le combat de groupe, ce qui permet là aussi de sortir de beaucoup de clichés. C'est là que le terme de cliché va intervenir avec la médiation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un bon petit groupe Renaissance, quand même, du Pélon du 15e. On a un peu tout en fait. Hein. Il y a les rapiéristes. En gros, les KPDP, dans toute la période 17e, est plutôt bien étudié chez nous aussi. Et on a un petit groupe fin 19e sur le sabre militaire ou ce genre de choses.
Est-ce que tu peux me parler un peu de ton arme?
Ah oui, alors nous on l'appelle épée de côté. C'est une épée qui a émergé à la fin du 15e siècle, qui a perduré pendant le 16e et jusqu'au début du 17e. On la considère généralement comme un intermédiaire entre la arming sword, l'épée courte simple, et des choses un peu plus comme des rapières. Nous on l'appelle épée de côté, parce qu'elle était souvent portée au côté, aux gens plutôt nobles. Après, à l'époque, ils appelaient ça juste une épée. Elle est assez caractérisée par sa garde, qui est assez élaborée, parce qu'on a les quillons, qui sont assez classiques pour une épée, mais on a aussi souvent une protection pour la main, qui vient en retour par-dessus les phalanges. Et on a ce qu'on appelle un padan, qui est une excroissance sur la partie la plus basse de la lame, qui permet d'enfiler son index.
Ok.
Par-dessus les quillons, et qui permet d'avoir une maniabilité, une mobilité de l'épée qui est plus fine, en fait. Ça permet d'avoir un peu plus de puissance de levier, en fait, quand tu manies l'épée.
À partir de ces sources, est-ce que vous pouvez quand même vous appuyer sur des sources archéologiques, dans le sens des objets, des armes qui ont été retrouvées,
ouais, c'est nécessaire.
Des armures,
ouais,
etc.
Ça fait partie des sources indirectes. C'est là qu'on reprend normalement les principes de l'archéologie expérimentale, que serait de partir de l'objet. À partir de l'objet, il nous faut quand même aussi un spécialiste moderne, c'est quand même normalement une nécessité, qui peut essayer de nous remettre un peu dans le contexte, ce qu'il est capable de faire. Ça va nous donner un champ des possibles, et ce champ des possibles, on va essayer de le réduire par les autres sources qu'on va trouver. Notamment sur l'iconographie, ce qu'on cherche beaucoup, c'est tout ce qui est récurrence, les choses qui ressortent beaucoup, des gestes systématiques, ou pareil dans des descriptions, etc., etc. Sur certaines périodes, une qui est extrêmement... pratiquaient en termes de reconstitution, c'est les Scandinaves, les Vikings, entre guillemets. Donc ils ont énormément de sources archéologiques proprement dit, ils ont quand même beaucoup d'objets, mais on n'a rien au niveau descriptif. Toutes les descriptifs qu'on pourrait avoir sont du 12e, plutôt 13e. Donc pour relier les deux, c'est compliqué. Donc dans ces cas-là, il faut bien avoir en tête que quand on commence à étudier qu'à partir de l'outil archéologique, on peut aussi avoir les traces sur les squelettes et sur les armes, poser quelques hypothèses, mais ça limite sacrément le champ. C'est beaucoup trop large. Et quand dans les présentations, dans ce qu'on pratique derrière, il faut bien avoir ça en tête, que des fois, On a beaucoup de biais, on a beaucoup d'ADN de grenouille pour le coup, donc ça ressemble plus à une grenouille qu'à un dinosaure.
Justement, c'était cette idée-là aussi de trouver les objets, donc les sources archéologiques, et comment c'est pour la mettre en place dans la pratique sportive des AMHE, parce que c'est quand même une pratique sportive et y a des règles, enfin en tout cas,
c'est ça, on peut pas
directement avec les
on peut pas remettre le contexte de certaines périodes, et nos armes ne peuvent pas non plus ni être tranchantes ni coupantes, on peut pas se permettre d'être blessé, donc. Il y a tout un volet de protection et d'adaptation. Donc ça, c'est pratiquement autre chose. C'est quasiment une autre matière. C'est comment recréer un sport, une pratique sportive, à partir de matériaux historiques, mais avec des adaptations nécessaires. Ça marche plutôt pas mal. Enfin, c'est assez... D'ailleurs, il y a plein de gens qui viennent pratiquer, parce qu'il y a une fédération qui commence à être un peu dynamique. Nous, quand on a commencé, on était les seuls dans tout l'Ouest, en fait. On est un peu les premiers sur la Bretagne et sur le Grand Ouest. Il y avait Le Mans et nous. Donc là, ça a pris un essor ces dernières années, qui est plutôt chouette, mais la grosse majorité des pratiquants viennent pratiquer le deuxième volet. Okay. Sans trop se poser de questions sur... certains ne seraient pas d'accord, mais la grosse majorité ne se pose pas trop de questions sur comment on est arrivé là. Quoi. Pourquoi on propose tel geste et ne remettent pas beaucoup en cause ce qu'on pratique. Ils viennent là aussi pour pratiquer parce que c'est fun, quoi.
Alors du coup, nous on fait de l'épée-bocle façon I-33. Je suis vraiment pas très douée en histoire, mais je sais que I-33, en gros, c'est le premier support visuel qu'il y a sur un art martial au niveau historique. Alors du coup, la bocle, c'est comme un petit bouclier tout plat, avec juste un petit truc rond au milieu en acier. Et l'épée, alors, elle doit faire quoi ? 60 cm de long, et puis après je pense le cliché de l'épée quand on pense à une épée avec ça fait une petite croix au bout, quoi. Et ben je suis rentrée à la corneille parce que j'ai ma meilleure amie qui est dans un des autres ateliers qui m'a parlé de ça. Elle m'a dit viens, on va se taper avec des épées. J'ai fait grave, on y va. Et du coup, la première année, on a fait de l'épée longue, qui est un autre atelier, qui est l'atelier un peu plus loin. Et la deuxième, on a un peu vaqué, ils nous ont présenté un peu tous les ateliers, et moi, celui-là me plaisait bien. Le côté où tu réfléchis vachement à ce que tu dois faire, parce que je sais que c'est ce qui me manque beaucoup. Et nous, ils nous l'ont un peu présenté comme un jeu d'échecs, ou un peu tu tricotes avec ton adversaire, tout ça. Mais du coup, j'essaye un petit peu, et puis je trouve ça sympa, le côté tu réfléchis à... Ok, nous on y va un peu comme des bourrins, mais ok, t'enlèves les casques, en fait, tu fais comment ? Enfin, eux, ils n'avaient pas le matériel que nous on a, et du coup, tu réfléchis un peu à la pratique. Le côté historique arrive peu à peu.
Justement, on avait cette question de est-ce que les AMHE et la reconstitution, c'est différent ? Qu'est-ce qui va être différent entre les deux ?
Alors, de ce côté-là, il y a le même biais. Ça peut être très idéalisé. Ramener la rigueur historique dans ces deux pratiques-là, c'est des fois très compliqué. Peut-être que M. Vautier vous a parlé de médiévalisme ou le phénomène de reconstitution, c'est-à-dire qu'une hypothèse devient une vérité. Et tous les reconstituteurs reconstituent la même chose à partir d'une hypothèse qui est fausse, quoi. Et la démarche de critiquer et retourner aux sources, elle n'est pas acquise, en fait. Dans les deux associations, c'est vraiment le... Systématiquement, dès qu'on me dit quelque chose, je veux la source. Dans les recherches historiques, c'est un peu la même chose. Moi, je suis revenu notamment sur l'histoire de Dinan, sur des poncifs qui étaient répétés dans chaque bouquin ou chaque article. On voit quelque chose répété qui partent de l'hypothèse d'un auteur du début du siècle ou même du 19e siècle, et sans jamais trop aller chercher la source. Et quand on va chercher la source, on s'aperçoit que il y a quand même des gros biais, voire il y a une forte extrapolation, et que peut-être qu'il faudrait réinterroger ça. Donc ça touche en vrai tout le monde, ça touche des chercheurs même renommés, je ne citerai pas, mais il y a des exemples, on peut trouver des exemples comme ça assez fréquemment. J'ai envie de dire c'est humain, enfin c'est un sac à boulot de retourner à la source tout le temps. Mais c'est qu'une toute petite frange de nos pratiquants qui, dans l'ensemble des groupes, que ce soit de la reconstitution classique ou de la reconstitution du geste, il y a une toute petite partie de ces gens-là qui font des vraies recherches.
Justement, en début d'interview, on a parlé un peu du projet à Pontcroix.
et on a évoqué le mot archéocyte.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait revenir dessus pour un peu définir qu'est-ce que c'est un archéocyte ?
Là, pour le coup, c'est un objet de médiation. L'archéocyte, c'est une espèce de musée expérimental à destination du public pour essayer de matérialiser des choses qui ont disparu, en fait. Et ça nous sert de bac à sable aux expérimentateurs pour essayer des choses. Je pense qu'il y a une gradation entre évocation et reconstitution, expérimentation, dans différents archéocytes en fonction du but réel. C'est-à-dire que est-ce que la première priorité, c'est de montrer aux gens, voire aux locaux.
Et justement, à Pont-Croix, on a quel genre de profils qui sont présents sur le site ? Est-ce qu'on a des professionnels de l'archéologie ? Il y a des historiens ? Ou alors c'est seulement, par exemple, des passionnés d'histoire ?
Ouais. Je pense que désormais, depuis quelques années, c'est une question qui a plus beaucoup de sens en fait. À Pont-Croix, mais c'est le cas aussi chez Militès et chez nous, il y a des ex-professionnels ou formés comme des professionnels mais qui ne le sont pas.
D'accord.
Donc vous pouvez avoir à Pont-Croix et chez Militès, vous avez des archéologues qui ne sont plus archéologues.
Mm-hmm.
Ce qui est mon cas, mais je ne suis pas le seul. Vous pouvez avoir des historiens qui ont un doctorat, mais qui font autre chose.
Mmh.
Vous voyez, donc c'est des gens qui ont quand même la formation, mais qui l'exercent dans un cadre un peu différent. Bah, par exemple, on a de nombreux médiateurs du patrimoine, qui sont désormais en formation artisan, ou qui font autre chose, quoi.
À Pont-Croix, vous nous avez dit que vous reconstituez une maison.
Ouais.
Pour ce bâtiment-là, vous vous appuyez sur quel genre de source ?
Alors, le site du 14e, nous, on fait une maison 12e. Donc, on fait au sein d'un village proto-urbain, une espèce de bourg, quoi. Nous, on fait une ferme qui nous laisse un peu plus de latitude au niveau des époques. Et on se base essentiellement sur les fouilles archéologiques qu'on a eues autour de Quimper, qui sont pas loin, notamment le Moustoir. J'ai pris beaucoup les rapports. On a la chance en Bretagne d'avoir... tous les rapports archéo qui sont numérisés et disponibles dans la DRAC, donc je pille allègrement les rapports de fouilles. Ce qui est parfaitement légal comme pillage. Et qui servent d'inspiration, voire direct. Même si on est obligé de faire des adaptations par rapport au terrain et aux matériaux disponibles. Et après, il y a les quelques spécialistes qu'on peut connaître en charpente. Et on a quelques historiens archéo qui ont quand même beaucoup bossé sur le sujet. Il y a un monsieur qui s'appelle Epo, qui a travaillé sur Guédelon, qui est mon prof de fac, mon CNRS, pardon, et qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et qui met à disposition ses travaux, et qui a beaucoup travaillé sur les loges en Anjou et en Bretagne, donc qui sont des constructions sur poteaux, et qui laissent des traces archéologiques au sol très similaires. Donc à partir de là, on peut poser l'hypothèse que la construction est aussi similaire.
Et cette maison, vous avez commencé à la construire il y a combien de temps ?
Il y a un an, un peu.
D'accord.
Un an. Alors, on a des biais, nous aussi, hein, parce que pour des contraintes de présentation au public, on est limité en temps. Et le seul moyen de convertir du temps humain en énergie, c'est de passer par des moyens mécaniques. Donc, là, on a bien vu que pour monter un poteau de 4 mètres et qui fait 50 cm de circonférence, c'est bien d'avoir un engin.
Et justement, vous parlez un petit peu, là, on l'a un peu évoqué, les difficultés, les biais qu'on a. C'est quelles difficultés les plus importantes ou celles que vous avez rencontrées durant ce projet ?
Oui. En fait, le biais le plus important, je trouve, et c'est le cas en archéologie du geste aussi, c'est nos représentations à nous. C'est-à-dire qu'on a l'image d'une maison, et ou de la façon dont elle devrait être construite, et instinctivement, on va dessus. Quand on va faire une première proposition de restitution, quand on demande à quelqu'un une représentation de la maison telle qu'il imagine par rapport à les données archéologiques, ça va ressembler finalement beaucoup aux maisons qu'on a autour d'eux. Or, l'ethno, le travail sur l'ethno et la confrontation au geste nous montrent que c'est peut-être pas du tout une bonne idée et que justement la chose a pu évoluer et que nos représentations en fait sont plus du tout les mêmes. Et quand on a la trace archéologique de bâti, on s'aperçoit qu'on des fois on est complètement à côté de la plaque. Ça peut pas fonctionner. Sur le geste aussi, ça. C'est le premier biais, c'est de sortir de nos représentations à nous. Et ça, c'est très compliqué.
Que ce soit pour la confrérie ou même pour l'archéocyte, donc vous accueillez du public.
Ouais.
Et comment ça se passe, la médiation auprès d'eux ? Qu'est-ce qui est mis en place ?
Alors, pour les AMHE, c'est relativement simple, en fait, puisque, en plus, ça parle aux gens. Ils aiment bien venir, c'est de la bagarre. Donc, la bagarre, ça marche très, très bien. Les représentations de ce côté-là, elles sont beaucoup faites en mode un peu classique, d'une présentation théorique relativement simple, synthétique, en premier, et après on montre. Après on montre du combat, différentes situations. On a beaucoup rajouté un peu d'humour parce que c'est un peu plus rigolo, mais c'est surtout ça. Sur le combat de gladiateur, qui est une des choses qu'on montre le plus, on essaye de recréer un peu l'ambiance qu'il peut y avoir autour des fois. Enfin, là, par exemple, on va faire un truc à carré avec le centre d'interprétation de Vorgium, là, où on va aller un peu plus loin dans la représentation, de la simple présentation normale où on fait un petit exposé et puis on montre les combats. On va aller sur la recréation d'un ludus, donc on va sans doute faire une pompa avec le défilé dans le bourg de carré. On va sans doute mettre en place des systèmes de paris, essayer de recréer un peu l'ambiance globale, que les gens puissent un peu toucher cette ambiance-là. On est aussi pratiquant de jeux de rôle ou ce genre de choses, et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal, ce qu'on appelle vaguement l'histoire vivante, c'est-à-dire que sans parler de tableau, on met des situations. On ne fait pas un exposé classique derrière notre panneau en disant, en expliquant aux gens ça, on le vit. Chacun représente un personnage et va vivre toute la journée son personnage avec des temps forts. Notamment quand il s'agit de représenter des trucs qui ne sont pas aussi spectaculaires que le combat ou l'artisanat, parce que l'artisanat, on fait la même chose aussi, sauf qu'on explique aux gens directement sans se mettre dedans. Donc on les met en scène, mais avec une espèce de vie au quotidien où les gens se baladent célèbrement dans l'ensemble du village qui est recréé, où des gens vivent, entre guillemets, et jouent leur personnage, en tout cas, avec des temps forts qui, eux, vont rassembler tout le public pour essayer de montrer ça. Ça, c'est des choses que nous, on met en place avec les différentes associations dont je fais partie depuis quelques années. Et au niveau du public, ça marche super bien. Ça marche super bien.
Bah justement, comment vous faites pour lier quelque chose d'historiquement correct, en fait, avec de vos recherches, à cette forme de divertissement?
C'est pas très compliqué, en fait. Hein. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, ce que font aussi une bonne partie de mes camarades, c'est qu'on va écrire un personnage. Mais ce personnage, on va prendre soit un personnage historique, bon, c'est un peu casse-gueule souvent, mais on va recouper les sources de la même façon. C'est qui cette personne? Quelle vie elle a pu avoir? On va lui refaire sa biographie, à partir des sources. On a un épicier, vendeur d'épices, etc. Moi, je me suis appuyé sur les travaux de Julien Bachelier, qui est prof à Brest, là, qui a fait le portrait d'un épicier, à partir des sources qu'il a pu trouver à Rennes et autres, et poser des hypothèses. Donc on fait la même chose. On écrit un personnage probable, tel qu'il pourrait être, comment il pourrait penser, on écrit la hiérarchie entre les personnages, et on joue.
Le lien avec le public, c'est l'idée que, comme vous l'avez dit, c'est très fantasmé, parfois, tout cet aspect médiéval ou antique. Donc parfois ils viennent avec des idées reçues, et au final, comment vous faites pour les contrecarrer?
En leur montrant ce que nous, on en déduit. Alors les combats, c'est assez facile, très très vite, et on va appuyer sur des côtés un peu... les gladiateurs, ils voient tout de suite que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils voient à la télé. Mmh. Les combats médiévaux non plus. Et la justice, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, parce que c'est des interactions qui ne sont pas du tout celles dont on a l'habitude par rapport à la justice. Et le mettre en œuvre, là, ça, c'est des choses qui marquent, qui leur parlent. Mmh. Et alors, dans ce genre de situation, on fait un peu comme on peut faire au théâtre des fois, on brise très souvent le quatrième mur. Mmh. Il y en a toujours un parmi les trucs qui va parler au public directement. Et puis quand ils nous posent la question, on leur répond, quoi.
Vous nous avez parlé du coup ces reconstitutions, mais est-ce que à Pont-Croix, vous proposez par exemple des ateliers au public?
Non, nous pas, parce que on est vraiment centré sur notre construction. Donc là, pour le coup, on est sur l'exemple de l'artisanat où on montre. Donc on fait et on se cruise avec eux. Par contre, Pont-Croix le fait régulièrement sur certains trucs, quoi. Notamment, il y a des ateliers peinture, on fait soi-même sa couleur, etc. etc. Donc oui, eux, ils le font. Ouais. Et c'est un peu le but. Je pense qu'à un moment, il y aura des trucs où on fera participer le public.
On a fait le tour des questions qu'on avait à vous poser. On vous remercie pour cette interview. Nos auditeurs ou nos auditrices sont intéressés par les différentes associations qui ont été présentées, est-ce que vous pouvez peut-être juste nous dire où est-ce qu'on peut trouver les informations pour soit faire partie de l'association ou s'y visiter?
Ouais, alors le site de la confrérie de la Corneille est en refonte, donc là il est down, mais je pense qu'il est trouvable sur Facebook encore. Les Milites Pagenses, pareil, Facebook, et je crois qu'il y a un site en ligne. Pont-Croix, vous trouverez très facilement, si vous n'êtes pas encore allé voir. On va aller voir les maisons.
Mais on arrive.
Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute et nous remercions particulièrement Fabrice Hénaud d'avoir accepté de répondre à nos questions, ainsi que les membres de la section Épée Bocle médiévale et Épée de côté de Renaissance de la confrérie de la Corneille qui ont accepté de se laisser enregistrer pendant leur entraînement collectif. En espérant que cet épisode vous a donné envie d'en découvrir plus sur le monde passionnant de la reconstitution historique et sur la pratique des arts martiaux historiques européens.